Bienvenue au milieu de nous, même si vous arrivez de province ou d'ailleurs. Alors, je vous propose de faire trois courtes lectures dans le Nouveau Testament. Nous allons aborder un thème un peu particulier. On parlera de tolérance et d'intolérance. Ça existe aussi chez les évangéliques. Oui, on trouve ça un peu partout. Alors donc, le premier texte se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, versets 25 à 28. Alors, Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez, enfin il parle aux disciples, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un autre texte dans Luc, au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Versets 9 à 11. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » On peut lire le 14e verset. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Un tout dernier texte dans l'Épître de Jacques, au chapitre 3, versets 14 à 18. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 14 à 18. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Je ne sais pas si vous avez regardé la télévision au mois de juillet. Dans le courant du mois de juillet, il y a eu quatre émissions, quatre, télévisées sur l'Inquisition en France au XIVe siècle. Avec deux papes installés, l'un à Rome et l'autre en Avignon. Alors ça se situe, les papes d'Avignon, entre 1309 et 1376. Alors c'était l'Inquisition, enfin le scénario avait lieu à Carpentras, ou Carpentras, je sais, pour ça c'est pour les sudistes, pour les nordistes c'est Carpentras. Alors nombreuses ont été les formes d'Inquisition, et d'intolérance, on peut dire, au cours de tous les siècles qui ont précédé, et ça existe malheureusement encore. Alors, que veut dire tolérance ? Enfin, c'est une définition parmi tant d'autres. C'est tout simplement le respect de la liberté d'autrui, le respect de ses manières de penser et de vivre, et particulièrement de ses opinions religieuses, philosophiques ou politiques. Alors, par rapport à d'autres périodes, on peut dire que notre temps peut paraître à l'observateur, je dirais, superficiel, celui de la tolérance. Ça dépend où on se trouve. Alors, tout est admis, ou presque maintenant. Et plus de limites à l'expression et non plus à l'action, ou presque. Je dis ou presque. Mais la seule interdiction serait tout simplement d'interdire. Un grand nombre de verrous ont sauté. Un certain nombre de règles de la morale individuelle et collective ont également sauté, et les uns après les autres, évidemment, ça ne s'est pas fait en même temps, et le laxisme a tendu à devenir la règle. Laxisme, donc, on peut donner une définition, c'est la disposition à avoir les idées très larges, trop larges parfois. Alors, il y a ainsi moins d'hypocrisie, pensent les uns, dans les comportements, mais y a-t-il davantage de charité ou d'amour ? Curieusement, et en même temps que la permissivité déferle, on peut dire aussi que de l'autre côté, l'intolérance s'accroît. C'est un paradoxe, mais non. On peut tout faire, on peut tout dire, sauf une, affirmer qu'il y a des choses à ne pas faire ou des paroles à ne pas dire. Actuellement, il y a trois jeunes filles en URSS, enfin à Moscou exactement, qui sont en prison pour avoir, dans une église orthodoxe, joué un peu trop gros avec Poutine. Donc, cette dernière attitude est jugée intolérable. Et le conformisme dans la volonté de ne se soumettre à rien, d'échapper à toutes les contraintes, et maintenant la règle, et quelle règle ? On peut dire que depuis la nuit des temps, les hommes s'évertuent à tuer au nom de leurs convictions religieuses ou politiques. Toute la Bible et l'histoire de notre humanité sont jalonnées de crimes odieux. Sacrifices humains, inquisitions diverses, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une malheureusement, croisades et guerres pseudo-saintes, se perpétue faisant des émules jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on s'entretue au nom de Dieu, encore. Alors, au banc des accusés, eh bien, un seul et unique coupable, l'intolérance. D'après le dictionnaire, c'est la tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d'autrui. C'est l'intolérance. Une partie d'elle-même. Alors, autre synonyme, étroitesse d'esprit pour l'intolérance, intransigeance, sectarisme ou intégrisme, on peut dire aussi. Bref, tout le contraire de ce que nous enseigne la Bible, notamment dans le verset 7 du chapitre 13 de 1 Corinthiens, où il est dit « L'amour croit tout, l'amour excuse tout, pardon, il croit tout ». Il espère tout et il supporte tout. Alors nous allons voir tout à l'heure qu'il y a des limites à la tolérance aussi. Parce que si on tolère tout, c'est l'interdiction d'interdire. Hein. Et on peut donc aller dans un très mauvais sens, très mauvaise direction. Alors nous, enfants de Dieu, où en sommes-nous? Par exemple, avec les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, le self-control. C'est dans Galates 5, ça. Alors, avons-nous crucifié également, c'est dans Galates, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, et j'en passe. Alors, si nous commettons de telles choses, hériterons-nous vraiment du royaume de Dieu ? Je pose simplement la question. Confronté donc à mes propres imperfections, je ne parle pas des autres, les miennes, j'ai constaté que je n'avais plus le temps de m'occuper, disons, de celles des autres. Et comme le dit encore l'Épître aux Galates, « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. » C'est Galates 6. Et encore dans Galates 6, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » C'est tentant de s'imaginer qu'on est quelqu'un ou quelque chose. Alors que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier, de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau, encore dans Galates. Et enfin, toujours dans Galates, nous l'avons vu, l'apôtre Paul cite le phénomène des sectes parmi les fruits de la chair. Chers amis, le pharisaïsme, qui n'a pas épargné notre Seigneur Jésus-Christ en son temps, sévit encore avec toute son hypocrisie, on peut dire, dans certaines églises. Nous sommes des évangéliques et pas encore des angéliques. Et si nous étions vraiment angéliques, il n'y aurait pas de problème d'intolérance. Et il y aurait une certaine tolérance avec des limites, évidemment. Alors, nous continuons tous, sans aucune exception, à ramener Dieu à notre dimension. Et c'est là que le bât blesse, justement. Si par malheur notre prochain ne cadre pas avec notre schéma humain, voire même et surtout chrétien, évangélique, toujours, pas angélique, eh bien, nous ne nous aimons plus les uns les autres comme Jésus nous a aimés, tout simplement. Et dans ce cas-là, pouvons-nous encore prétendre être les disciples de Christ? Je vous le demande. Et quant à notre exégèse mesquine, bien souvent, et étriquée, le prophète Ésaïe place également la barre très haut, car il dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, je ne sais pas comment vous vivez, mais la tolérance et l'intolérance jouent, on pourrait dire, pratiquement tous les jours, puisque nous sommes entourés de nos frères les hommes, on va dire. Alors, l'intolérance religieuse et morale est pour beaucoup de nos contemporains... Il y a un problème ? Ok, merci. Oula. Merci. Alors, je répète, l'intolérance religieuse et morale est pour beaucoup de nos contemporains la seule vraiment intolérable. Alors, pendant longtemps, les églises établies, puissantes, majoritaires, on va dire, ont montré un visage triomphaliste, intolérant et souvent persécuteur. Elles apparaissaient, sûres d'elles-mêmes, fortes de leur bon droit et sans pitié pour les hérétiques et les païens. Seuls de petits groupes méprisés réclamaient la liberté religieuse. Et aujourd'hui, leur cas n'est plus isolé, pas plus que leur voix. Sans doute, peut-on voir là un fruit du renouveau biblique qui a appris ou rappelé aux églises que leur force est dans la parole et l'Esprit de Dieu et non pas dans la puissance terrestre. Oh, il me vient toutes sortes d'idées en parlant. Mais on peut aussi discerner d'autres causes beaucoup moins réjouissantes. Les églises ayant perdu leur puissance de fait, leur autorité incontestée se trouvant sur la défensive face à un monde soupçonneux, critique, alors les églises ont parfois réagi de façon complètement négative. Par ailleurs, ce monde s'est considérablement ouvert. Par exemple, le tiers-monde, les religions orientales, ne sont plus des inconnus pour beaucoup dans le monde occidental aujourd'hui. Nous rencontrons fréquemment des gens intelligents, disons, issus d'autres cultures, adeptes d'autres religions. Et est-il possible qu'ils soient totalement dans l'erreur? C'est ce que certains intellectuels s'imaginent, se demandent beaucoup d'Occidentaux, entre autres. Alors, n'y aurait-il pas un peu de vérité ici et là? Ça va très loin, vous savez. Alors, chacun n'est-il pas libre de suivre un chemin différent vers le même Dieu? Et c'est ce que insinuent certains intellectuels maintenant en voulant rapprocher, au nom d'un certain œcuménisme, toutes sortes de religions. Alors, prétendre être seul à posséder la vérité, c'est toujours dans la cogitation de certains, n'est-ce pas une prétention orgueilleuse et méprisante pour les autres ? Eh bien, c'est ainsi qu'un peu partout, l'intolérance d'autrefois semble faire place à une grande tolérance et à un relativisme tout à fait accommodant. Alors maintenant, y a-t-il des limites à la tolérance ? Alors, je crois que les chrétiens doivent voir là une grave tentation. Leur foi repose sur une révélation de Dieu. Notre frère Franck l'a rappelé tout à l'heure lors de son intervention. Et Dieu a parlé et non un homme ou des hommes. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres prophètes. Il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et le monde gréco-romain des premiers siècles ne s'y est pas trompé. Je vais vous donner un exemple biblique. Tant que l'apôtre Paul, à Athènes, par exemple, au chapitre 17 du livre des Actes, parlait de religion, tous les Athéniens l'écoutaient, enfin une majorité d'entre eux. Et quand il a commencé à annoncer la résurrection du Messie, on l'a tout de suite fait taire. Si Christ est vraiment ressuscité, il s'agit là donc de quelque chose d'unique, d'un message universel venant de Dieu. S'il est réellement ressuscité, alors Jésus n'est pas un des prophètes parmi d'autres prophètes. Il est le seul, l'unique à être venu parmi les hommes pour apporter une réelle métamorphose, transformation, résurrection interne dans le cœur des hommes. Alors sinon, l'Évangile n'est qu'une sagesse parmi d'autres, c'est-à-dire une religion de plus. On peut concevoir, évidemment, plusieurs sagesses arrivant au même but par des chemins différents. Ça, c'est, disons, en termes philosophiques. Et c'est ainsi que les Orientaux, aujourd'hui encore, conçoivent les diverses religions qui les entourent. Mais on ne connaît qu'un Seigneur ressuscité, qu'une bonne nouvelle, proclamant le salut accompli par le Dieu vivant. Si nous n'avons pas foi en la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine. Alors, pour le chrétien, la foi n'est pas une construction humaine, donc imparfaite et partielle, mais elle est un message reçu de Dieu dont il ne peut disposer à sa guise. D'où, par exemple, la fermeté d'un apôtre, Paul, et si, par exemple, il disait dans Galates, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire excommunié, maudit. Hein. Et la fermeté doctrinale qui exclut le relativisme à la mode est une conséquence de l'évangile. Alors, je répète, la tolérance a certaines limites. On ne peut pas tronquer l'Évangile sans tronquer Jésus-Christ lui-même. Alors maintenant, le refus de l'intolérance. Mais ce même Évangile est tout aussi opposé au fanatisme intolérant, à l'intégrisme. Et l'intégrisme, ce n'est pas une affaire de l'islam seulement. L'intégrisme religieux existe même chez les évangéliques. Je suis un évangélique. Alors, partout où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, on peut dire que les hommes sont appelés à la foi. Mais la foi ne peut ni naître, ni vivre sous la contrainte. Elle ne peut qu'être une libre réponse à l'appel de Dieu. Quand je me suis converti en 1954, Dieu ne m'a pas pris à la gorge, il ne m'a pas secoué comme un prunier en me disant « il faut que tu te convertisses ». Non, non. J'ai eu une démonstration, une conviction de son amour à mon égard. Je savais qui j'étais et j'ai appris à connaître le Seigneur ensuite et il m'a amené à lui. Alors, elle ne peut qu'être une libre réponse, je répète, à l'appel de Dieu cette fois. Et Jésus, lors des tentations, enfin de sa tentation, a refusé de se servir de tout moyen qui pourrait faire violence à la conscience des hommes. Nul comme lui n'a respecté la liberté de ses interlocuteurs. Prétendre imposer la foi chrétienne, c'est la détruire. car c'est nier l'amour qui en est, on peut dire, le fondement. Pourtant, nous l'avons vu, l'histoire de l'Église ne manque pas d'exemples où les chrétiens ont eu recours à la violence, à la menace, à tous les moyens à leur disposition pour, entre guillemets, convertir d'autres hommes ou alors les empêcher d'exister. Il y a eu en Espagne, autour de 1492 environ, un dénommé Torquemada, qui était un bénédictin, qui était le général inquisiteur pour l'Espagne et toute la péninsule ibérique. Et à partir de là, c'est là que les Juifs ont été chassés de l'Espagne s'ils ne voulaient pas se convertir à Jésus-Christ. Et ils sont partis, les uns vers Carpentras, comme par hasard, les fameux Maranes, qui étaient des Juifs à part entière, qui ont fait semblant d'accepter Jésus-Christ et qui exerçaient donc leur foi judaïque dans d'autres pays, et en Espagne entre autres évidemment. D'autres sont allés vers l'Est, c'est-à-dire vers la Turquie, l'Égypte, etc. Mon épouse est issue de cette Inquisition de 1492. Alors, il existe cependant des formes d'intolérance qui se rencontrent même dans les églises bien évangéliques et contre lesquelles il nous faut rester sur nos gardes. Je m'explique. Dans l'épître de Jacques, il nous est parlé d'un zèle amer qui est contraire à la paix. Alors, n'avons-nous jamais rencontré de ces chrétiens zélés, très zélés, tellement désireux de convaincre les autres, de les amener à la foi ou à leur conviction personnelle, ça arrive très souvent, qu'ils en deviennent agressifs, hargneux, amers, querelleurs parfois. Je me rappelle, mes parents étaient convertis au Seigneur avant évidemment que je ne le sois. Et ils amenaient de braves dames qui avaient un âge certain à l'époque. Pour moi, j'avais 16 ans. Et ils les amenaient à déjeuner chez nous, donc chez mes parents. Et ces braves dames d'un certain âge ou d'un âge certain voulaient à tout prix me convertir. J'étais complètement allergique à la foi, à 16 ans, complètement. Et elles me parlaient de bagarres, de batailles, de luttes. Je disais, mais ces pauvres grand-mères, qu'est-ce qu'elles vont lutter à leur âge, hein? Évidemment, après, j'ai compris ce qu'elles voulaient dire, mais des années après, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Mais il y avait parfois une insistance qui me mettait mal à l'aise. Je vais vous dire tout de go ce que je faisais. Je prenais mon Borsalino et je partais à Pigalle, qui était mon fief de prédilection. Je les laissais en train de discuter entre elles. Alors, je crois qu'on peut voir de là ce désir de domination, quand on insiste lourdement, contre lequel Jésus s'est levé. Et c'est ce que nous avons lu en partie dans Matthieu chapitre 20. Nous sommes tous menacés par la tentation de vouloir manipuler autrui, de lui imposer nos idées et nos manières de faire ou de vivre. Et cela nous donne alors un sentiment de puissance qui nous rassure et va flatter d'une certaine manière notre orgueil. L'intolérance peut aussi naître de la peur. Quand un homme ne se sent pas bien assuré dans ses convictions, il va ressentir donc comme une menace toutes les idées contraires aux siennes. Et nous avons parmi les évangéliques des gens qui sont tellement peu assurés de leur salut, peu convaincus que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, que si on parle d'autre chose, ils vont devenir très agressifs parce qu'ils n'ont aucune base biblique pour apporter la contradiction à leurs contradicteurs, justement. Ils s'efforcent alors de... Enfin, ces chrétiens-là s'efforcent de fermer leur esprit à tout ce qui va troubler leur sécurité ou ce qu'ils pensent être leur sécurité. Et ils vont s'abriter derrière un certain nombre de préjugés et ils vont dresser alors des murailles protectrices sous forme de traditions, de dogmes intouchables, de règles morales ou religieuses. Il faut, il ne faut pas, il y a qu'à, il ne faut pas, etc. Enfin, vous voyez, dans le pentecôtisme que j'ai connu il y a 60 et quelques années maintenant, il y avait ces règles, règles sur règles. Tu l'as connu un peu, mais enfin après. Mais règle sur règle, loi sur loi, précepte sur précepte. Je ne vais pas vous détailler les choses. C'était très rigoriste. Et il y avait une sorte d'intolérance notoire. Donc, c'est là, au fond, ce qui était arrivé aux pharisiens du temps de Jésus. Un mouvement qui avait commencé dans un bel élan de foi, le pharisaïsme, bel élan d'amour également pour le Seigneur, pour Dieu, et qui s'était figé en un système de lois et de traditions, 613 commandements. Interdiction de franchir un chemin de sabbat, un kilomètre, des petites poussières. Savoir si on avait le droit de manger un œuf qui a été pondu un jour de Shabbat. Enfin, j'exagère, mais c'est comme ça. Alors, d'où l'attachement aux formes extérieures de piété. Le Shabbat, les dîmes, les gestes rituels, et le rite a dépassé le spirituel, et on s'est enfoncé dans le rite, et on a oublié le spirituel. Et tout cela considéré comme des défenses de la foi, au détriment, justement, de l'amour et de la vérité. D'où aussi leur intolérance pour certains à l'égard de ceux qui ne suivaient pas les mêmes préceptes. Par exemple, nous avons lu l'histoire d'un péager du commun peuple, disons, ou qui les contestait, comme Jésus l'a fait en son temps. Alors, peut-on dire que les chrétiens évangéliques soient à l'abri de cette rigidité inquiète et de cette sévérité à l'égard de ceux qui ne partagent pas leurs convictions, parfois même au sujet de l'interprétation de tel ou tel passage biblique, ou alors de leur façon de faire, même s'il ne s'agit pas de règles qui ne sont pas directement fondées sur la Bible. Quand j'ai fait quelques menues études aux États-Unis, je logeais avec un cher collègue qui était pasteur presbytérien. Et il était très rigoriste, il était d'origine allemande, enfin ses ancêtres, pas lui, il était réellement américain. Et nous logions dans un motel pendant des mois et des mois, on a été ensemble, on a fait New York, Los Angeles ensemble, etc., en voiture. Donc j'ai appris à le connaître progressivement, et c'était un homme qui ne buvait aucun alcool, c'était son affaire. Mais quand il a appris que les Français pratiquaient la Sainte-Seine avec du vin, j'ai jamais entendu autant, enfin, pas des injures, loin de là, il était très poli, mais autant d'acrimonie de sa part, parce que j'étais un renégat en tant que pasteur, j'étais un renégat, je faisais la Sainte-Seine, je buvais du vin. Pas des barriques, hein, évidemment. Et alors, un jour, enfin, je vous dis ça, c'est une anecdote, mais pour montrer jusqu'où peut aller l'intolérance, il m'avait vraiment agressé pendant des mois, ça a duré. Et je ne suis pas du tout patient par nature, très peu, même pas du tout, donc. Et un jour, il m'a pris le mort aux dents. Je suis allé à minuit, parce que les magasins ouvrent nuit et jour. J'étais à Hollywood, exactement. J'ai acheté un gallon de vin, ça fait 3 litres combien ? 3 litres, un peu plus, hein. Et ensuite, c'est pas à faire, hein. Mais je vous le dis parce que c'est simplement l'anecdote. Tous les soirs, je remplissais un petit peu de vin dans un verre et je lui disais, à la tienne. Alors, après, ça a été terminé, donc. Ça a été terminé, il m'a laissé tranquille. Alors, le remède donc, à tout cela, c'est tout simplement la foi, l'assurance que rien ne peut nous enlever l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dans Romains 8. Alors, l'esprit de secte est aussi une forme d'intolérance, séparer, diviser pour mieux régner ensuite. Alors, le propre de la secte, et j'en ai terminé, c'est de se couper du reste des hommes qui sont jugés mauvais, impurs, dangereux, nous l'avons lu tout à l'heure. Les sectaires s'enferment dans leur tour d'ivoire, dans la citadelle de leur orgueil. Et de là, ils jugent les autres avec mépris. Ils se tiennent les coudes pour se convaincre de leur supériorité, évidemment religieuse ou spirituelle. Notre frère Franck l'a très bien dit l'autre jour à propos de ceux qui parlent en langue. Il n'y a pas, disons, des sous-chrétiens, des chrétiens de seconde zone. Hein. Je crois que si nous sommes enfants de Dieu, si nous pouvons dire que Jésus est le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que nous le disons. Ça n'empêche pas qu'il faut également parler en langue, évidemment. Mais il n'y a pas, je répète, de chrétiens de seconde zone. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous le sommes à part entière et pas entièrement à part. Alors, donc, j'en termine. Certains dressent également de réelles barrières pour qu'aucune confusion ne soit possible, pour que l'ivraie et le bon grain puissent pousser côte à côte. Et l'esprit de secte, c'est aussi l'esprit de mafia, c'est-à-dire besoin de s'unir contre les autres, besoin de mépriser tous ceux qui sont étrangers au groupe. Ça existe, même chez les évangéliques. Alors, toute église peut devenir une véritable secte dès lors qu'elle commence à se glorifier de ses particularités ou de ses particularismes, de ce qui la distingue du reste des hommes, comme le disait ce fameux pharisien que nous avons lu tout à l'heure, enfin dont nous avons lu sa vie. « Je te rends grâce, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ça fait tout à fait humble, ça. Hein? Moi, je. On a des chrétiens comme ça. Il en existe. Pas ici, par rue de la Roquette, non. Toujours ailleurs. Alors, l'Évangile, au contraire, nous rappelle ce que nous avons en commun avec les autres hommes. Nous sommes tous des pécheurs. C'est ce que nous avons en commun. Mais aussi tous aimés de Dieu, tous appelés au salut par Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons lu dans Jacques tout à l'heure. Si donc, tout motif de se glorifier est exclu, dans Romains 3, 27, toute raison de mépriser les autres et de faire preuve d'intolérance à leur égard est également exclue, ou doit l'être. Sûr de Jésus-Christ, ferme dans la foi, mais ouvert, amical, humble avec les autres hommes, eh bien, tel doit être le chrétien, enfant de Dieu, le vrai disciple. Ma conclusion, la voici. Ni tolérant jusqu'à l'indifférence, ni intolérant jusqu'au fanatisme, mais rendu libre d'aimer, parce que tout simplement assuré de l'amour de Dieu pour lui et pour le monde, tel doit être l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es venu au milieu des hommes que tu connaissais bien et pour lesquels, Seigneur, tu t'es donné toi-même dans un esprit d'amour, de don de toi-même. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, que tu nous as acceptés tels que nous étions avant de te connaître. Seigneur, tu ne nous as pas envoyé au visage tout ce que nous étions avant de te connaître, mais au contraire, tu t'es offert à nous comme l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour chacun de nous, qui n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui le tondent. Seigneur, en cette matinée, nous te demandons au nom de Jésus-Christ de faire de nous des hommes non pas tolérants, jusqu'à tout accepter, ni intolérant, jusqu'à tout rejeter. Mais Seigneur, de faire de nous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui soient capables d'accepter quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne pense pas forcément comme nous dans les questions secondaires et dans les questions vitales concernant le salut de notre âme. Nous te demandons de nous aider d'être non pas des orgueilleux, de ceux qui jugent tout le monde, mais de ceux qui aiment jusqu'à se donner eux-mêmes aussi pour les autres, afin qu'au nom du Christ vivant, les autres apprennent à connaître Jésus-Christ, le vivant, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Amen.